Chapitre 2. Non, Charles Gibou n'était pas parti pour l'Afrique, encore moins avec Bouli Bouli. Il en avait eu l'intention sous l'effet de la condamnation au rejet de Nicole, car de ce moment il ne pouvait plus envisager ni espérer un retour en arrière. Dans l'esprit d'un expert comptable, la logique des apparences tend à l'emporter sur l'éventuel. Un échec avec Juliette, deux échecs avec Nicole. Le premier s'était achevé par une délivrance mêlée d'angoisse. Le second lui causa une violente douleur, sourde, tenace. Lamentablement chassé par la femme du bonheur enfin trouvé, grâce à la merveilleuse jeune fille à laquelle il avait si souvent repensé après l'étrange rencontre de la rue des Lilas, il s'était de nouveau réfugié aux Essarts, 2 mois et demi après la mort de Dagobert. Injustement, il avait frappé Bouli Bouli, lui reprochant avec rage d'être venu rue du Cadran solaire pour le relancer et d'avoir fait de lui un homme de nouveau malheureux, mais pour la vie. Car la dite Bouli Bouli avait appris que Antoine Juvin était parti vivre chez la pharmacienne avec la bénédiction de Dagobert. Alors elle était allée aux deux, avait trouvé par hasard ouverte la porte de chêne, était montée dans le plus grand silence. Elle était entrée en se coulant à la chatte. Charles avait voulu la renvoyer en lui disant qu'elle était une petite folle, mais elle s'était mise à pleurer, protestant qu'elle l'aimait très fort, sans pouvoir se passer de lui, et qu'elle croyait même être grosse de lui. Alors Charles s'en était attendri, et il l'avait serré dans ses bras en geste de consolation et d'apaisement. Mais pendant ce temps, Bouli Bouli avait fouillé Charles en des points sensibles, lui avait rappelé qu'il l'avait eue toute neuve et qu'elle était à jamais amoureuse. Elle avait conduit la main de son aimé jusqu'à un petit sein dressé, nu sous le pullover, et sa cuisse avait frotté en tapinois la cuisse de Charles. Dans le désarroi soudain de la tentation, Charles avait cédé en faisant jurer à la petite nymphe des Essarts que c'était bien la dernière fois. Mais elle lui avait aussi fait comprendre, à beau couvert, qu'elle pourrait parler de petites choses pas claires, et Charles en avait tremblé. Bon, il expédierait la passagère, ultime fringale de Bouli Bouli. Nicole, affairée dans la pharmacie, n'aurait pas l'idée de surprendre, n'en saurait rien, tout rentrerait dans l'ordre. Et c'est alors que le drame avait éclaté, suivi du verdict sans appel. Outre sa douleur, Charles en éprouvait une honte, d'autant plus affreuse qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui. Il avait ainsi brisé, et pour la deuxième fois, une vie que Dagobert avait cherché à lui donner, calme, sûrement heureuse, d'une régularité qui, cette fois, aurait été celle des joies simples et vraies, non du repliement sur soi, de l'angoisse, du néant, du désespoir quotidien. Il avait fui de chez lui, disons plutôt de chez Juliette. Sa femme avait fait de lui une loque obéissante, fermée dans le placard de l'ennui, à la frontière de la haine ordinaire. Il avait eu peur de la jeune fille trop miraculeuse dans la rue des Lilas. Et tant bien que mal, Dagobert avait transformé Charles en un autre homme, l'avait aidé à devenir enfin ce qu'il était. Et maintenant, tout recommençait sur un autre canevas de misère et de solitude. Nicole n'était pas loin, pourtant. Il aurait pu venir la voir, lui expliquer sa faiblesse, son imbécilité, la menace ambiguë de dénonciation, demander la rémission de sa faute, de sa veulerie, de cette tentation diabolique à laquelle il s'était laissé prendre comme un imbécile. Il envisagea plusieurs fois ce retour à Canossa, mais l'appréhension de se faire renvoyer sur le même ton le fit rester aux Essarts. Nicole le mépriserait encore plus à le voir s'humilier devant elle dans des supplications de lâche. Peut-être apprendrait-elle par hasard que Charles était toujours là, à 3 kilomètres auprès de la grande ombre tutélaire. Elle finirait par venir le chercher, le relever tendrement, pardonner, lui dire qu'elle oubliait sa méchanceté, sa basse trahison, qu'elle était prête à reprendre leur belle vie d'amour et de désir sans cesse renouvelée. Qu'il soit à elle, rien qu'à elle, pour toujours. Oui, Nicole était venue, mais Charles n'en avait rien su. La grand-mère de la fillette avait eu peur. La mère avait confirmé la fausse nouvelle du départ vers l'Afrique par désir de vengeance contre la pharmacienne qui avait enlevé Antoine Juvin. Et puis la mère de Bouli Bouli avait formé le projet de marier sa fille à cet Antoine afin de voir un blanc intégrer son sort d'africaine dans la société française. Ce calcul machiavélique avait abouti à consacrer la séparation entre Charles et Nicole. Brisure prolongée qu'il avait tenue aussi qu'à un chantage, selon lequel Bouli Bouli aurait été enceinte de Charles, ce qui était faux. Mais le chantage fait sur Charles était parvenu jusqu'à Nicole. Elle y avait été bien évidemment crue, puisqu'elle avait vu la trahison de son amant, et chez elle. Après quelques mois, Charles vit bien que Bouli Bouli ne prenait pas de ventre, et il avait refusé net tout nouvel embrassement, car la jeune fille le tenaillait, puisqu'elle le savait sous sa main. Bon, plusieurs fois, il eut des cris, des explications orageuses avec le père de la fillette, mais quand Charles envisagea de partir ailleurs, n'importe où, les parents se calmèrent et lui firent l'autre chantage, de le faire rechercher par la police sous prétexte de vol d'identité et de mensonge à la justice. Tantôt Antoine Juvin, tantôt Charles Gibou, il faudrait y voir de plus près. Pendant plusieurs autres mois, l'ambiance fut infernale et il vécut dans la terreur. On le força à travailler dur au jardin et dans la ferraille. Oh, le temps de Dagobert était bien fini. Cette fois, c'était Cayenne, et comme tous les Noirs des Essarts étaient citoyens français, on prêterait l'oreille à leur délation. Pas question non plus d'aller chercher refuge chez Nicole. Si, dans ces circonstances, elle le protégeait, à son tour, ce serait elle qui en subirait de désastreuses conséquences pour avoir caché un ancien fuyard qui avait échappé au meilleur limier de France grâce aux artifices obscurs de Dagobert. Les choses se calmèrent un peu, car Bouli Bouli se trouva un jeune mari, un blanc, selon le désir de sa mère. Charles se considéra comme délivré, mais le chantage continua pour le punir de son refus d'épouser Bouli Bouli. C'est de la sorte que beaucoup de temps passa dans cette séparation aussi stupide entre les amants fous. Autre ennui. Un jour que la police avait fait une visite de routine aux Essarts, un jeune noir, vague cousin de Bouli Bouli, et qui s'était pris de bec avec Charles lors de la séparation en réparation d'un moteur, dit qu'Antoine Juvin vivait sous une fausse identité. Il s'appelait Charles Gibou. Vrai, monsieur le gendarme. On arrêta Charles, menotte, on le mit en garde à vue pour vérification d'identité. On ne comprit rien à son ancienne disparition et les recherches se prolongèrent. On essaya de retrouver Juliette, qui avait vendu la maison et s'en était allé à l'étranger avec un autre homme. Détention provisoire. Charles s'inquiéta fort. Il redoutait qu'on appelât Nicole en témoignage Mais comme personne des essarts n'avait pensé dire à l'inspecteur que Charles avait séjourné chez mademoiselle Ansel, heureusement, on n'entreprit rien de ce côté-là. Charles réussit à demander une entrevue avec M. Georges Lafriche, qui accepta de venir sans rien comprendre d'abord à cette histoire invraisemblable. Pour lui, Charles avait de nouveau disparu, et si Nicole l'avait fait intervenir pour l'établissement d'une carte d'identité, elle lui avait bien dit qu'il s'agissait de Charles Gibou. Le vieil homme avait fait confiance puisqu'il l'avait revu à une nuit tombée. Dans le bureau d'un juge, ce furent des explications compliquées, mais finalement confiantes, et Georges Lafriche ne regretta pas d'être là. Il accéda à la demande de Charles de ne pas souffler à Nicole le moindre mot de son arrestation. Charles venait de vivre des moments épuisants. On accepta de le relâcher sur la parole de Georges Lafriche, qui s'engageait à le loger chez lui dans une dépendance et à le reprendre comme expert dans son cabinet. Charles n'en bougea pas, ne parla pas de Nicole à laquelle il pensait d'autant plus qu'il en était à 5 minutes de marche. D'autre part, il restait persuadé que la rancune de Nicole le poursuivrait jusqu'à la tombe. Elle devait prendre son affront comme une affaire d'honneur, et dans ce domaine, les femmes ne transigent pas. Il reprit donc son ancien travail et se fit tout petit. La seconde idée lumineuse de Régis Vergès fut de venir aux Essarts. Le récit de Nicole lui avait donné peut-être une piste à explorer, et quand Régis Vergès avait une idée en tête, oh, il n'était pas facile de l'en dissuader. 4 jours après son entretien avec Nicole, il se décida et arriva au quartier du Nègre. Ils questionnèrent, mais comme on ne le connaissait pas, on répondit d'abord qu'on avait connu Charles, oui, mais qu'il était parti pour l'Afrique sans laisser d'adresse. Il eut quelques secondes d'inquiétude, mais aussi la ruse étrange de dire, dans ce milieu très sensible à la sorcellerie, que l'Esprit Saint de Dagobert l'avait visité. Si tu veux retrouver ton vieil ami Antoine Juvin, qui s'appelle Charles Gibou, tu iras aux Essarts, et l'on te dira où il est. Et maintenant va, mon enfant. Les Noirs, présents à cette déclaration solennelle de Régis Vergès, virent là une sorte de miracle, un message de l'au-delà, qui par ailleurs confirmait la survie de Dagobert auprès des esprits compagnons de Dieu. Ils se mirent à genoux en cercle et posèrent leur front sur le plancher. Un homme d'environ 70 ans, second fils de Dagobert, se releva et considéra d'abord Régis Vergès comme un personnage dont le pouvoir magique pouvait être redoutable. S'il ne parlait pas, cet homme leur jetterait un mauvais sort, et le vieux noir fit à M. Régis Vergès une autre déclaration très solennelle que Charles avait été emmené par la police pour dissimulation d'identité. Il y avait de cela plusieurs mois. Voyant l'ambiance de cette scène stupéfiante à laquelle il avait été loin de penser quand il arriva aux Essarts, M. Vergès eut la troisième idée, cette fois saugrenue mais efficace, de tendre les bras comme pour imposer les mains et de prononcer sur un ton caverneux « Enfant des Essarts, par ma voix l'esprit apaisé de Dagobert vous bénit. Amen, se dit Régis Vergès, qui partit lentement pour s'empêcher de courir au commissariat. Il fit des imprudences en voiture, arriva devant les gendarmes et les interrogea. Mais on lui fit des difficultés. Et d'abord, qui il était? On reconnut l'ancien employé de la ville. Après, ce fut le pourquoi. Il répéta ce mensonge que Charles était un de ses vieux amis, mais qu'il avait su par hasard qu'on l'avait retrouvé à la suite d'une longue disparition. Bref, il apprit que Charles Gibou était bien en résidence, mais résidence surveillée chez Monsieur Georges Lafriche. Mais attention, pas de blague, on contrôlerait. Sous le coup de sa forte émotion, Régis Vergès rentra pour réfléchir. Le calme s'imposait absolument, il ne fallait surtout pas en parler trop tôt à Nicole, dont la sensibilité était à fleur de peau et dont l'anémie devenue chronique pouvait provoquer un accident. Pendant toute la nuit qui suivit, il consulta l'âme d'Adeline, qui approuva sa conduite et sa prudence. Le samedi matin, Régis Vergès se rendit au Chapeau Rouge. Seule Madame Fessange faisait tourner les ordonnances à cause de l'excès de faiblesse de Nicole, qui ne tenait plus debout et s'était deux fois assise, blême et l'œil vague. La préparatrice l'avait aidée à monter chez elle et à s'asseoir sur son fauteuil. C'est une pitié de la voir, mon pauvre monsieur. Je crois qu'elle file à très mauvais coton. Et depuis mardi matin, je la reconnais presque plus. Elle tremble, elle bégaye. Il va falloir faire venir le docteur Péchaud, vous savez, le frère de notre collègue du tourniquet. En tout cas, moi, je ne sais plus quoi faire. À l'officine, je m'occupe de tout, mais je ne peux lui servir aussi de garde-malade. Vous me comprenez? Elle refuse de consulter. Mais il faudra bien s'y résoudre, on va pas la laisser mourir. Bon, je pense que je peux monter la voir. La préparatrice devait servir une dizaine de personnes et laissa Monsieur Régis. Il monta, inquiet de la réaction de Nicole, car il lui avait fait une promesse et il ne pouvait la tenir exactement ce jour-là. Il entra et vit Nicole comme assoupie, mais elle sursauta, se mit la main au cœur et souffla doucement, sans pouvoir se lever. Oh, c'est vous, oh, comme j'ai mal partout. Mourir de langueur, je crois que ça existe. Oui, c'est moi, ma belle. Allons, tout va bien. Je te confirme ma promesse. Cela te fait plaisir? Je ne sais plus bien. Et mon Charles, mon époux. Ces quelques mots à peine audibles inquiétèrent encore plus Régis Vergès. Mais il faut te remettre, il le faut, tu m'entends. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire tout seul. Bon, je vais dans ta cuisine et je te prépare un œuf jaune d'œuf au Porto. Elle accepta de le prendre. Monsieur Régis attendit près de Nicole en lui tenant une main et elle se sentit mieux après une demi-heure. Monsieur Régis prit le risque de raconter à Nicole la visite aux essarts, puis au commissariat, et Nicole interrompait sans cesse par des « Pourquoi? Mais pourquoi? » et les larmes de la douleur coulaient de ses yeux bistrés sur ses joues fasques et blanches. Monsieur Vergès les essuyait doucement, disant à Nicole que se décourager n'avait rien d'utile, qu'au contraire, elle ne faisait que lui donner à lui plus de chagrin et de difficultés. Quand Nicole apprit que Charles était logé chez Georges de la Friche, elle essaya, mais en vain, de se lever pour téléphoner tout de suite. Elle voulait voir Charles, rien que l'apercevoir, lui dire encore une fois qu'elle l'aimait, aujourd'hui même, avant de mourir. On peut croire la patience que dut garder M. Régis pour la calmer et tenter de la raisonner un peu. Il passa plusieurs heures auprès de sa passiflore, lui fit des cafés au sucré, lui donna des vitamines et l'obligea à marcher dans l'appartement pour la circulation. Nicole resta comme prostrée. Il la quitta une heure pour aller surveiller ses arrosages automatiques, revint à 7 heures du soir. Il lui donna des remontants que Madame Fessange lui avait confiés, l'aida ensuite à déshabiller et à coucher ce pauvre corps qui ressemblait à un fantôme et non plus à la femme si belle qu'elle avait été. Assis près d'elle à son chevet, il lut des revues, tenant encore à la main de sa protégée, jusqu'au moment où elle put s'endormir, apparemment paisible grâce à des calmants. Vigilant et lisant, il tint la main de Nicole toute la nuit, sans la moindre défaillance, attentif aux plus petits gestes de sa belle enfant. Au petit matin, Nicole s'éveilla, reposée. Elle se leva quelques minutes, mais M. Régis la fit se recoucher. Ce repos ne pourrait que lui faire du bien. Il était temps qu'elle se refasse une santé, car sa vie en dépendait, et son avenir n'avait rien de triste si vraiment elle voulait reprendre une existence équilibrée. Nicole écoutait son vieil ami, promettait d'être plus raisonnable, de ne pas gâcher les efforts qu'il faisait avec une prudence affectueuse. M. Régis lui répétait qu'elle était en train justement de laisser tomber ses 3 croix de la passiflore et qu'il commençait à voir l'épanouissement de la belle fleur qu'elle était. Il fit boire à Nicole un autre café léger, très sucré, débrancha le téléphone, expliqua qu'il allait à ses jardins et reviendrait dans très peu de temps. Nicole lui sourit et s'assoupit quand il l'embrassa. Il prit les clés et s'en alla sur la pointe des pieds. Arrivé chez lui comme en catastrophe, Régis Vergès jeta un œil rapide dans sa serre. Il était nerveux à l'idée qu'il fallait téléphoner d'urgence à Georges Lafriche. Il avait préparé plusieurs entrées en matière, mais il les oublia. Dès que l'on décrocha, il bégaya pour s'expliquer, demanda des excuses pour le dérangement un dimanche matin, resta confus. Il souhaitait voir M. Charles Gibou dans la journée et que le plus tôt serait le mieux. Voilà, et que son plaisir serait grand de le voir pour parler d'un peu de tout, en particulier d'un problème très important, quoique sans rapport avec la situation juridique de M. Gibou. Georges Lafriche demanda un instant qui dura et reprit la conversation. M. Gibou le rencontrerait dans l'après-midi, vers les 4 heures par exemple, si le moment pouvait convenir. Donc, rendez-vous fut pris chez Georges Lafriche. Lui, qui avait perdu l'habitude de courir, monta essoufflé l'escalier de Nicole qu'il retrouva sur son lit, assise en chemise de nuit et le regard tourné vers un horizon invisible au ras du parquet. De nouveau, il s'inquiéta d'elle, lui parla, mais ne réussit à lui faire exprimer que « Mon époux, mon Charles !» À coup sûr, elle divaguait. Il hésita pour appeler le docteur Péchaud, car il redoutait qu'on emmène Nicole à l'hôpital. Il préféra lui-même administrer à Nicole un soutien du cœur et lui donner à boire un autre café avec 2 biscuits. Elle les prit et s'endormit presque aussitôt sous le poids de sa maigreur et de sa faiblesse. Son pouls était à peine sensible. Régis Vergès s'énervait à voir les heures passer avec une telle lenteur. Comme il ne voulait pas partir à ce rendez-vous sans avoir une idée précise de l'état de Nicole, à 3 heures, il la réveilla pour lui parler un peu et finalement lui dire qu'il allait rencontrer à 4 heures une personne qu'elle aurait un immense plaisir à revoir et qui lui redonnerait le goût de vivre et de se soigner vite et bien. Elle allait un peu mieux que tout à l'heure, lui sourit et l'assura qu'elle resterait à attendre en se reposant encore. Et puis il ne serait pas longtemps absent. Mais elle promettait de ne pas se lever pour ne pas tomber. Il n'avait pas osé lui dire qu'il allait voir Charles afin de ne pas provoquer une excitation inutile pour l'instant. Elle l'aurait supplié de l'emmener avec lui, mais son état physique l'en empêchait. Régis Vergès s'éclipsa à 4 heures moins le quart et sonna chez Georges Lafriche, qui lui présenta Charles. Il avoua sur le champ qu'il n'avait jamais connu M. Gibou auparavant. Il avança des excuses à cause de la pagaille mentale dans laquelle il vivait depuis plusieurs jours, était désolé du roman qu'il avait monté le matin au téléphone, parce qu'il n'avait pas su comment s'y prendre pour un problème bien délicat. Alors il se présenta de nouveau comme un vieil ami des parents de Mademoiselle Ancel, laquelle se mourait et voulait revoir M. Gibou avant la dernière extrémité. La vie de Nicole était en jeu et ne semblait plus tenir à grand-chose. Le désespoir dans lequel elle avait vécu depuis quelques années, après avoir chassé de chez elle M. Gibou ici présent, était la cause d'une langueur dont on pouvait craindre qu'elle ne se relève pas. Charles et M. Lafriche devinrent tous deux aussi pâles qu'on peut l'être, l'un sous le coup de sa culpabilité soudain remise à vif, l'autre plus soucieux pour son investissement. Charles, cependant excité par les propos de Régis Vergès sur les sentiments que Nicole éprouvait à son égard, se jeta un veston sur les épaules et, sans un mot, passa devant ce messager inattendu pour courir vers une absolution qu'il n'espérait plus. Il avait même cru que Nicole s'était mariée, parce qu'elle était jeune encore et surtout par dépit. Ces années qu'il avait passées dans des tribulations aussi nombreuses qu'imbéciles avaient transformé son désespoir en une résignation qui le minait lui aussi à petit feu. Sa vie avait été une cascade de sottises et d'hésitations qui l'avait conduit à un nouveau sentiment de néant et de dégoût. Au quartier du Nègre, il n'avait connu que la dégradation et la honte. Il n'en avait pas fui par peur d'une dénonciation, alors il s'y était de nouveau réfugié, sans trop savoir pourquoi. Tout compte fait, son arrestation par la police devenait soudain une forme de chance, si tardive qu'elle fût, à laquelle il n'aurait jamais osé croire, mais aujourd'hui, il fallait bien se rendre à cette évidence. Nicole l'avait cherché et l'appelait à elle, peut-être au seuil de la mort. Et pourtant, ce qu'il venait de considérer comme une chance se transformait pour lui en une damnation éternelle afin de le punir de sa veulerie. Voir mourir Nicole, ce serait un coup de poignard vengeur qu'elle lui donnerait. Elle aurait choisi de mourir, non, de frapper en ce dimanche de Toussaint à sa façon de femme amoureuse et trompée. Que pourrait-il faire, sinon de se jeter au bord du lit d'où Nicole allait s'évanouir vers les brumes de son histoire manquée? Il demanderait un pardon couvert de larmes. Il baiserait ses pieds pour calmer son esprit de vengeance. Il pourrait tenter de s'expliquer et, si elle mourait, au moins, elle partirait d'ici-bas en emportant une autre idée de celui qu'elle avait aimé. Oui, il était bien ce Sigi Charles Gibou, marqué par le destin de l'absurdité, un sans force, un sans courage, un pleutre qui n'avait jamais rien compris à la vie, un pauvre type qui ne semait sur son passage que la misère morale ou l'énervement. Une vie ratée avec Juliette et coup double avec Nicole. Sur le boulevard du Soulier, Régis Vergès et La Charles pour pouvoir le rattraper qui filait en le précédant. Ils marchèrent ensemble, la fièvre au cœur. Régis Vergès, cherchant à calmer Charles, dont l'agitation et l'angoisse étaient plus que manifestes. D'abord, Nicole était trop faible pour pouvoir supporter des démonstrations inutiles, des regrets bruyants, des protestations d'amour éternel. Surtout pas. Il faudrait au contraire se présenter doucement. Dire que, voilà, il était revenu auprès d'elle. Rien de plus. C'était la condition élémentaire de la sagesse, la seule manière dont il userait. Il devait le promettre et s'en tenir strictement à cette attitude convenue. Bien. Et puis d'ailleurs, Régis Vergès connaissait toute leur vie, leur passion, si belle mais si aberrante. Ils s'aimaient, s'étaient vus sans se connaître, avaient passé 2 ou 3 mois ensemble. Ils n'avaient trouvé que les moyens les plus idiots de se séparer, 1 fois, 2 fois. Ils étaient des fous, monsieur, ou des gaspilleurs de sentiments, quand d'autres malheureux encore jeunes sont déchirés par une maladie mortelle ou une tragédie décidée par l'injustice du sort. Il n'était plus permis dès lors de s'amuser comme dans les romans d'amour ou sur un théâtre de foire. Le jeu de cache-cache entre les portes ou les coulisses ne pouvait plus durer. Lui-même venait de se mettre en chasse pour le bonheur de Nicole qu'il avait toujours affectionné depuis l'enfance. Mais si Charles le décevait, il verrait qu'un homme qui protège une femme comme sa propre enfant devient plus terrible ou plus entêté qu'une mère au secours de sa progéniture, plus implacable que l'ange exterminateur avec une épée de feu devant l'entrée du paradis perdu. Ils arrivèrent enfin devant la porte de chêne aux 2 rues du cadran solaire, et quand ils montèrent silencieusement l'escalier, Régis Vergès dit à Charles qu'il entrerait le premier pour préparer Nicole afin d'éviter une entrée soudaine qui risquerait de provoquer un choc nerveux. Ils pénétrèrent donc dans l'appartement et M. Régis introduisit Charles dans le salon, lui ordonnant d'y rester. Il alla dans la chambre de Nicole, qui se réveilla, et restant couché, sans même que l'ami fidèle ait eu le temps de parler, elle lui dit faiblement, en esquissant un sourire tiré, « Vous m'avez ramené mon Charles, mon amour unique ?»« Mais comment peux-tu le savoir, ma belle enfant ?»« Oh, je ne sais pas trop. Oh, si, oh, je vois votre regard qui m'apporte ma délivrance. » Je pourrais mourir heureuse de l'avoir revue, au moins une dernière fois. Monsieur Régis, vous aurez été si bon pour moi. Allons, allons, Nicole, ressaisis-toi. Soyons sérieux. Oui, pas si fort, tu es bien faible. Je le reconnais, mais pourquoi parler de mourir? Bon, je suis si malheureuse. Je n'ai plus envie de vivre. Tout est fini pour moi, vous savez. Mais tu m'as promis que tu allais te soigner, rappelle-toi. Amenez-moi Charles, je vous en supplie. Je sens qu'il est là. Il est dans le salon. Non, je vais me lever pour aller le chercher. Laissez-moi. Avant l'imprudence de Nicole prête à se lever, Monsieur Régis alla inviter Charles à venir. Quand Charles entra dans la chambre, Nicole se souleva péniblement sur un coude, le regarda avec grande tension dans les yeux. Elle était pâle, émaciée, la bouche crispée dans un sourire cadavérique et mauve, et les deux hommes crurent l'entendre vaguement dire « Mon Charles, mon époux, tu es enfin revenu ?» La tête de Nicole bascula en arrière et tout son corps s'effondra étendu sur le lit. Charles cacha son visage dans ses mains. Monsieur Régis la crut morte, se précipita, prit le poignet de Nicole où il ne sentit aucun battement. Il s'avança pour mettre son oreille sur le pauvre sein et entendit quelques mouvements très lents. Il se releva précipitamment. Vite, il fallait faire très vite, téléphoner aux urgences de l'hôpital sans passer par Pécho. 6 minutes après, pendant que Charles, à genoux près du lit, tenait la main glacée de Nicole, Régis Vergès accueillait sur le trottoir les ambulanciers. On courut, on posa le corps décharné sur la civière. Couverture, perfusion immédiate, on file à toute vitesse, on installe Nicole au service de réanimation. On verra, il faut attendre de toute façon, c'est la seule urgence, oui, il reste des marques de vie. Charles et Régis Vergès sont assis dans la petite salle d'attente, au 3e étage, tout près du service. Après quelques minutes, Charles se leva et lança à M. Régis. « Elle est perdue. Je vous dis qu'elle est perdue. Je n'aurais pas dû la voir dans un tel état et vouloir me ramener ainsi vers elle n'était pas un bon calcul de votre part. Vous le voyez, mon arrivée ne l'a pas ressuscitée, au contraire. J'aurais su sa mort par le journal. » Je regardais d'elle l'image de sa beauté passée. Bon, j'en aurais souffert, mais à partir d'aujourd'hui, je vais garder le souvenir d'une horrible dégradation dont je suis coupable. Et vous, vous en serez coupable aussi. Malgré les accusations de Charles, M. Vergès resta calme et n'eut pas même l'idée de justifier ce qu'il avait entrepris. Qui peut savoir? Et puis, monsieur Gibou, il y a eu les miracles de l'amour. Ils sont si étranges, si incompréhensibles, les faites des efforts pour vous apaiser. J'assiste et vous en prie. L'âme de Dagobert vous protège. J'espère que vous me croyez, car vous n'allez pas me soutenir, que vous ignorez le pouvoir des sorciers, surtout celui de Dagobert. Je veux bien vous croire, si vous y tenez, mais j'aurais jamais pensé qu'elle en était à ce point, et par ma faute. J'ai déjà vu la mort de près. Moi, je vous dis qu'elle est perdue. Bon, vous n'êtes pas à confesse, monsieur Gibou. Je vous dis que les mains de Dagobert sont sur chacun de vous. Vous vous marierez tous les deux et souvent vous vous souviendrez de Dagobert, rappelez-vous. Charles, qui s'était retenu jusqu'alors, ne put empêcher des sanglots. Monsieur Vergès attendit, tenta de le raisonner encore. Dagobert, oui, Dagobert. Certes, mais pour l'instant, Nicole a plus besoin de soins, de patience, que d'attendrissement vain. Je sais, ce n'est pas drôle d'attendre, de rester là sans savoir le résultat des soins. Après 3 heures de leur attente angoissée, l'interne vint dire aux deux hommes que le cœur de Mademoiselle Ansel semblait reprendre du rythme. La tension remontait faiblement. C'était très lent, mais bon signe. Il devait partir maintenant. Demain matin, à 8 heures, ils auraient des nouvelles. Allô, monsieur. Il était désolé, mais elle leur redonnait courage. La malade était dans le coma, mais bien d'autres en étaient sortis. On avait fait plusieurs prélèvements pour savoir s'il y avait une affection grave. L'analyse de sang ne donnerait de premiers résultats que le lendemain vers midi. En tout cas, Mademoiselle Ancel se réveillait sans relâche. On avait aussi appelé le docteur Péchaud, qui la connaissait bien. Régis Vergès accompagna Charles chez Georges de la Frisse, auquel ils dirent dans quelle situation était la malade. On but un café en envisageant les suites éventuelles, mais quoi que le sort décidât, il faudrait s'incliner devant lui. Charles répétait que tout était de sa faute, marchait de long en large. Ça ne changeait rien de le dire, mais l'égarement doublé du sentiment de culpabilité lui faisait perdre la mesure. À minuit, Régis Vergès rentra chez lui. Il alla caresser ses passiflores et leur parla de l'une d'entre elles qui était bien faible, parce qu'elle venait de perdre sa croix. À 1 heure du matin, il tenta d'appeler l'infirmière de garde qu'on voulut bien lui passer. Il n'y avait rien de nouveau, mais la tension continuait de remonter. Étendu sur son lit de repos dans sa serre, tout près de ses passiflores éclairées par un faisceau lumineux, Régis Vergès se surprit à prier, comme il ne l'avait plus fait depuis la mort d'Adeline. Charles et M. Régis passèrent à l'hôpital toute la journée du lundi, sans qu'on vînt leur annoncer une amélioration de l'état de Nicole, sinon un coma stationnaire. On prévint les parents en selle. À 4 heures, ils arrivèrent très éprouvés. Le mardi, en début d'après-midi, Régis Vergès réussit à confesser l'interne qui semblait inquiet à cause d'une nouvelle chute de tension. En outre, la malade était d'une maigreur squelettique. L'encéphalogramme montrait comme une mort lente du cerveau, une sorte d'effondrement cérébral par éclatement de tous les vaisseaux. Régis Vergès sentait qu'en réalité, Nicole avait subi un choc nerveux trop violent à l'instant où elle avait enfin retrouvé l'homme, pour lequel elle avait vécu, sinon éprouvé, une passion trop violente et inexplicable. Vers 6h30 du soir, M. Régis et Charles remarquèrent de l'agitation dans le service. À 8h15, au moment où les deux hommes attendaient l'interne pour les dernières nouvelles, une infirmière s'approcha d'eux et leur dit que Mademoiselle Lancel avait rendu son dernier soupir à 7h30, malgré les efforts répétés de tous, alors qu'il fallait avoir du courage, qu'elle n'avait pas souffert. Charles rugit sous le coup de cette annonce qui brisait définitivement sa vie malheureuse et absurde. Il voulut se précipiter, il fallut l'intervention d'infirmiers pour le maîtriser. Charles Gibou et Régis Vergès s'en allèrent abattus par le chagrin, mais Charles refusa d'être raccompagné chez Georges Lafriche. Plusieurs jours après, à quelques kilomètres au sud de la ville, bien plus loin que le carrefour des Essarts, on retrouva par hasard dans un fossé le corps de Charles Gibou. Il avait un trou dans le côté gauche de la tête et son bras gauche était presque arraché. On pensa qu'il avait marché sur le bord de la route, qu'un camion l'avait probablement accroché au passage et projeté dans les herbes, sans l'apercevoir, sans même s'arrêter. Il avait dû s'en aller dans la nuit jusqu'à son ultime horizon, errer vers le visage trop éclatant d'une jeune fille si belle, mais dont les yeux gris venaient de se fondre dans un des crépuscules de l'éternité.